La deuxième notion, nous avons dit, c'est l'onction. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te oindre d'une onction particulière en cette saison. Dieu veut nous oindre d'une onction particulière en cette saison. Dieu veut nous oindre d'une onction de puissance pour manifester sa gloire en cette saison. Dieu veut nous oindre d'une onction de résistance à l'ennemi en faisant référence à la solidité du bois d'escarboux, de ce bois rouge de la porte. Dieu veut nous rendre résistants. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu veut nous oindre de cette onction de résistance. Alléluia. Il veut nous oindre d'une onction de puissance, je disais tout à l'heure. L'Esprit de Dieu m'a donné un passage de la Bible pour illustrer ce que je dis là. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup édifié. Nous allons lire dans 1 Roi 19 ce passage. Il m'a dit, prends l'exemple de Jéhu pour illustrer ce message. Parce que Dieu veut vous oindre d'une onction particulière, d'une onction de puissance, d'une onction de puissance dans l'action, d'une onction qui ne recule devant rien dans la bataille. Nous allons lire ce texte et progresser. Dans le livre de 1 Roi 19 déjà, dans son verset 15 à 16, l'Éternel donne une instruction à Élie. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie qui, après avoir détruit les prophètes de Baal, etc., a reculé, s'est retiré et allé vers Dieu et a dit qu'il ne pouvait plus continuer la mission, etc. Et finalement, Dieu lui a demandé, Dieu lui a donné une instruction pour la continuité. Il dit dans 1 Roi 19, en son verset 15 et 16, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. » Au verset 16, il dit, « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. » Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Waouh! Voilà une instruction que Dieu donne à Élie. Ok, tu veux plus continuer la mission. Ok, je vais te prendre avec moi. Mais avant, va, oins ceux qui vont agir après toi. Oins-les de ton onction, parce que j'ai des missions à leur confier. Tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Roi de Syrie. Syrie n'était pas le territoire de Dieu. Mais l'Éternel est disposé parce que lui, il a un objectif. Il a un but à atteindre. Et tous, on a toujours dit que Dieu peut se servir de tout le monde. Tous sont à créer sa création. Il dit, tu vas oindre au roi de Syrie. Parce que j'ai des choses à lui faire faire aussi. Tu vas oindre Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. J'ai des choses à lui faire accomplir. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète après toi. Amen. Nous allons passer maintenant ce qu'il a fait. Nous savons qu'il a oint Élisée, etc. Nous ne sommes pas en train de parler d'Élisée maintenant. Il a aussi oint Azaël, roi de Syrie. Ça aussi, c'est une autre histoire. Nous allons nous arrêter sur Jéhu. Nous allons donc lire, faire la lecture du livre 2 Rois, chapitre 9, versets 1 à 10. Nous allons lire et nous allons commenter. Lisons. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu repeindras sur sa tête et tu diras, « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Oh, mon frère, depuis qu'on lit la Bible, on a vu où que quand on a oint quelqu'un, on a fui. Élisée met en garde celui qu'il est en train d'envoyer. Il a dit, tu le oins, tu dis ce que je t'ai dit de dire là. Et tu fuis. Parce que c'est une notion spéciale que l'Éternel est en train de mettre sur la tête de Jéhu. C'est une notion spéciale. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Jéhu était oint pour aller combattre qui? Jézabel. Jézabel. Devant qui? prophète Élie avait reculé. Jézabel. Il dit, ouin, ouvre la porte et fuis. Mon frère, ma soeur, l'onction-là est particulière. Fuis sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galate. Quand il arriva, voici. Je vous ai dit, j'aime le terme voici avec Dieu. J'aime le terme voici. Ça veut dire beaucoup de choses. Ici et maintenant, c'est fait. Voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Acham, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Achida. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Point. Le jeune homme a fini de parler. Puis, le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. J'ai souligné ça dans ma Bible. En tout cas, nous voyons qu'il est obéissant à l'instruction que lui a donnée Élisée le prophète. Il est allé faire exactement ce qu'on lui a dit de faire et il a fui. Mes frères, mes sœurs, quand nous recevons des instructions, même si on nous dit « roule-toi par terre », n'hésitons pas. Roulons, faisons et roulons-nous par terre, accomplissons ce que l'on a entendu de Dieu, ce que l'on a entendu des hommes de l'Éternel. Si on veut honorer une prophétie, si on veut honorer une instruction, faisons-la bout à bout, comme il est dit de faire. N'enlevons rien dessus. Amen. Il ouvrit la porte et il s'enfuit. Il a bien fait. Alléluia. Ça, c'est une notion qui est particulière. Nous n'en voyons pas encore comment ça va se manifester. Mais si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez. Continuons d'apprécier cela. La parole nous dit, Jéhu a accompli ce qui lui avait été dit. La parole nous dit que Jéhu a fait ce qui lui a été dit. Que tout ce que le jeune prophète a libéré sur sa vie, il a fait tout ça. Détruit la maison d'Achab, détruit Jézabel, et ainsi de suite. Il a fait tout ça. Amen. Mais continuons la lecture de ce qui s'est passé parce que l'Éternel est en train de nous parler d'autre chose. Alléluia, sur laquelle je vais attirer votre attention. Nous parlions d'onction. Il l'a oint et c'est une onction toute particulière. Si nous continuons à lire dans 2 Rois, à partir du chapitre du verset 10 jusqu'à verset 28, nous allons comprendre un certain nombre de choses. Continuons notre lecture. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va bien? La parole de Dieu dit, tout va-t-il bien? Il fut interrogé, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Question de dire, oh, des foutaises. Regardez comment les gens sont, ils viennent, ils bavassent là, ils sortent et fuient. Mais, la parole dit mais. Mais ses amis n'ont pas marché dans ça. Ses amis le repliquent. Mais ils repliquèrent. Mensonge. Que ne nous ment pas, mon frère. Réponds-nous donc, dis-nous ce qu'il t'a dit. Et là, Jéhu leur a dit. Il m'a parlé de telle et de telle manière. Disant, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Point. La parole de Dieu dit, aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. C'est les escaliers. Parce que quand ils venaient de la maison, la partie haute, ils descendaient les escaliers pour les retrouver en bas. Ils mirent au haut des degrés sur chacune des marches. Ils sonnèrent de la trompette. Et dire, Jéhu est roi. Alléluia. Jéhu est roi. Oh my God. Mon frère, ma soeur. j'ai eu à exterminer Baal du milieu d'Israël. Cette onction était une onction pour exterminer l'incrédulité dans le cœur du peuple, dans les âmes, et contribuer ainsi à faire descendre le règne de Dieu sur le peuple. Il y va de même pour nous. Dieu veut qu'en cette saison, parce que notre Seigneur Jésus nous a confié une mission d'aller jusqu'aux extrémités du monde, faire des nations, ses disciples. J'ai toujours dit aux gens, nations, c'est les peuples, c'est les systèmes, c'est les royaumes, c'est les ancrages, c'est la terre, le ciel, c'est la création tout entière. Faites de ça, mes disciples, mon frère, ma soeur. C'est une bataille dans laquelle nous sommes entrés. Une bataille où l'ennemi, notre ennemi, le diable, croit tenir de main ferme les âmes qui sont encore maintenues captives par lui. L'Éternel, en notre Seigneur Jésus, nous dit, allez me quérir ces âmes. Allez les ramener dans le royaume de Dieu. Et l'Éternel veut nous oindre d'une notion particulière pour exterminer l'incrédulité dans l'âme, dans l'esprit de ceux vers qui il nous envoie. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons lumineux pour éclairer ce monde et amener ces âmes à la lumière. Amen. C'est de cette onction que l'Éternel Dieu, notre Père, veut nous oindre. Une onction royale, mes frères et mes sœurs. Une onction qui va amener la manifestation de sa gloire. Oh. Le texte que nous venons de lire là nous conduit à la troisième notion, la notion de l'emblème, la notion de la marque, la notion de la distinction. Parce que un emblème, c'est une marque, c'est un attribut qui est destiné à représenter une autorité, une personne. C'est un peu comme les armoiries. Ce sont des marques distinctives des familles, des collectivités, des individus, des marques de représentation selon des règles définies. On sait que nous appartenons à tel groupe, à tel clan, à telle communauté. Voilà nos marques. Ça a une signification. Et cette notion d'emblème se voit ici avec Jésus. Je veux que nous analysions ça. Quand nous lisons, nous avons lu du verset 10 au verset 13, nous voyons qu'il se passe quelque chose. Comment est-ce que la prophétie, le message que le jeune prophète est venu libérer sur la tête de Jéhu a été pris et considéré par lui-même Jéhu et par ceux qui étaient à côté de lui? Parce que Élie lui a dit, va, tu vas le retirer du milieu de ses frères. Tu vas le oindre comme ça et tu vas t'en aller. Maintenant, il repart au milieu de ses frères. N'oublions pas que Jéhu, c'était un chef d'armée. Et il était comme ça, avec ses soldats, avec les soldats de sa brigade, de son contingent. Et quand le jeune est arrivé, on dit, tu veux parler à qui? Il dit, je veux parler au chef. Il dit, mais lequel d'entre nous? Il dit, toi le chef. Donc, Jéhu était déjà un chef de troupe. Alléluia! Mais l'Éternel voulait le upgrader. C'est la même chose. Nous, aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Nous considérons, mes frères et mes sœurs, comme ayant cru en Jésus et ayant le désir de servir Christ. L'Éternel, notre Père, nous dit, c'est bon, mais je vais vous upgrader pour que vous me serviez à un niveau qui reflète ma gloire. Oh, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Seigneur, je veux. Alléluia. Que quelqu'un dise Seigneur, je veux. Je vous ai dit que les pierres précieuses, c'est ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, mais ce qui monte du désir de votre cœur aussi. Le désir de votre cœur, quand ça fait plaisir à l'Éternel, c'est une pierre précieuse qui rayonne. Alléluia. L'emblème, ce sont des signes distinctifs. C'est les signes, c'est quelque chose qui est façonné sur quelqu'un ou mis sur quelqu'un, ajouté à quelqu'un, pour qu'il soit distingué du milieu des autres. Dieu a levé Jéhu pour que par la prophétie et par l'onction qu'il a reçue, il soit distingué des autres. Il a mis sur lui un signe de reconnaissance. Un signe qui l'a rendu reconnaissable par tous, par ses frères qui étaient assis là. La marque de la royauté que l'Éternel venait d'inscrire sur lui par l'onction devait être vue, visible par les autres. Lorsque Jésus sort de la chambre, à la limite, je crois que la cérémonie a un peu perturbé Jésus. Lui, il est un homme de guerre, bon, vraiment. Il n'est ni lévite, ni sacrificateur, ni... Vous savez qu'à cette époque-là, les choses sont cloisonnées. Il n'est pas roi, il n'est pas... Lui, il est un homme de guerre, il va à la bataille, il fait sa guerre et c'est tout. Mais le spectacle a dû... Il a dû vraiment considérer le jeune prophète comme fou. Il dit, toi, tu me racontes quoi, là? J'étais au moins roi d'Israël, tu vas combattre Jézabel, tu vas détruire le royaume d'Achab, tu parles de quoi là? Mais quand il est sorti, il allait retrouver ses compagnons. Mais seulement, Jéhu ignorait ce qui désormais reflétait sur lui, la marque de reconnaissance que l'Éternel avait inscrite sur lui. Parce que quand il est sorti, ses frères d'armes ne sont pas restés de marbre. Ses frères d'armes ont dit, « Oh, Jéhu, qu'est-ce que celui-là est venu te dire ?» Et Jéhu a voulu faire celui, « Oh, j'en sais rien, laissez tomber, hein. Les gens viennent, ils font leur cinéma, là, ils s'en vont. » Non, ce sont ses frères d'armes qui ont dit, « Oh, dis donc, ne nous raconte pas les histoires, il s'est passé quelque chose. Nous, on est en train de voir quelque chose sur toi, il s'est passé quelque chose, dis-nous quoi. » Bon, Jéhu aussi se dit, « Je vais leur dire ce qu'il m'a dit. » Voilà, il me dit des choses comme ça, et il me dit, « Je te oins, roi d'Israël. » Mais il n'est même pas rentré dans le détail de ce qui était dit. Mais dès qu'il a dit, il m'a dit, « Ainsi parle l'Éternel, je te oins, roi d'Israël. » Les yeux, tous les yeux se sont ouverts. La conviction s'est faite dans le cœur de ses frères d'armes. Comme quoi, en face d'eux, ils avaient le futur roi. Que quelqu'un dise amen. Ils ont vu la marque royale sur Jéhu. Ils se sont levés. Ils se sont levés pour faire allégeance au roi. La parole de Dieu dit qu'ils ont ôté leurs vêtements et ils ont couvert les degrés. Les degrés, ce sont les marches d'escalier. Pour partir du lieu où ils étaient, pour arriver au lieu où était Jéhu, de façon à ce qu'ils marchent plus comme un simple citoyen, mais comme un roi sur un tapis. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, Dieu fonctionne de cette façon. Il a fait mettre un tapis pour le roi, notre roi Seigneur Jésus, à son entrée à Jérusalem. Souvenez-vous, lorsqu'il est monté sur l'âne, les gens enlevaient leurs vêtements et tapissaient le chemin pour que le roi des rois, le roi de gloire, ne marche pas, n'entre pas à Jérusalem comme un simple citoyen, mais comme un roi qui était reconnu déjà roi dans les yeux du peuple qui l'acclamait. Alléluia, c'est la même chose. Les frères d'armes de Jéhu l'ont reconnu comme roi et ont fait ce qu'on fait au roi. Ils ont sorti la trompette, ils ont sonné de la trompette et ils ont annoncé Jéhu, roi d'Israël. C'était bouclé, mes frères et mes sœurs. Achab pouvait monter, descendre. Son cas était scellé et le nouveau roi était là. Alléluia, c'était un signe distinctif. Il portait l'emblème royal sur lui. Il avait cette marque de reconnaissance sur lui. Amen. Et cette marque sur lui, vous allez le voir dans la suite. Cette marque sur lui devrait être visible par tous. Ceux qui doivent l'acclamer, mais ceux aussi qui doivent le craindre. Même les ennemis, quand tu arrives devant lui, tu vois déjà qui il est. Tu vois la marque de Christ. Tu vois, parce que tu dois fléchir les genoux. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand je pense que tu dis que c'est ça que tu veux faire de nous. Père éternel, je dis oui. Cette marque, Seigneur, je la veux. Mes frères, mes sœurs, priez à l'Éternel pour que cette marque soit inscrite sur vous. Pour recevoir cette onction royale, pour agir au nom puissant de Jésus. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste en nous. Et l'Éternel nous dit, je vais vous faire ces portes d'escabeau. Je vais inscrire sur vous mon signe de reconnaissance. Je veux vous oindre une onction royale afin que nous allions ensemble accomplir les missions que j'ai pour vous. Amen, amen, amen. Oh Dieu, nous parlons d'emblème encore comme signe identitaire. C'est important. Comme signe identitaire. Lisons, continuons de lire la parole et nous allons voir comment une fois proclamé roi par ses frères, comment est-ce que Jésus s'est comporté. Quelle attitude il a eue? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? C'est mes frères, mes sœurs. Parce que nous devons nous en référer. Ça doit nous édifier, nous éduquer, nous apprendre les stratégies de bataille de paix. Ça va nous apprendre à comment fonctionne l'Éternel. Alléluia. Le signe identitaire que l'on place, je nous comme un emblème, comme une marque, doit nous donner conscience de qui nous sommes. Ça a donné conscience à Jéhu de qui il était. Il a pris conscience qu'il n'était plus que le chef de guerre, Jéhu. Il était roi. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, parce que ça, c'est une dimension qui échappe aux chrétiens comme ça. beaucoup, beaucoup et dans beaucoup de circonstances, nous perdons la conscience de ce que nous sommes, de l'identité que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, prions pour que cette conscience soit profondément ancrée en nous, pour qu'elle soit présente à chaque instant. Alléluia. Cette marque identitaire nous donne conscience du niveau auquel la grâce de l'Éternel, à laquelle l'onction de Père te positionne. C'est une marque qui vraiment doit t'amener à prendre cette conscience, à prendre conscience de l'onction de Père sur toi, de ta position véritable en fils et du niveau auquel tu dois opérer désormais. Alléluia! Ceci aussi doit nous amener à prendre conscience du pouvoir et de l'autorité, du droit divin qui repose désormais sur nous par l'onction royale. Alléluia! Nous devons être conscients de ces choses, conscients aussi des responsabilités qui désormais nous a échues, des responsabilités d'agir avec Père, des responsabilités dans le royaume, des responsabilités dans le service de Père, des responsabilités dans les communautés où nous sommes, des responsabilités dans le monde où nous sommes, des responsabilités dans les lieux où nous exerçons. Nous devons prendre conscience de ça, du droit que nous avons, mais des responsabilités qui vont avec. Amen. Des responsabilités de nous lever, d'agir, des responsabilités de ne pas nous taire, mais de manifester l'identité que nous avons. Des responsabilités de ne pas nous dissimuler, de ne pas dissimuler Christ en nous, de ne pas cacher les marques qu'il met en nous. Alléluia. De laisser briller la lumière. C'est une responsabilité, mes frères et mes sœurs. Nous devons être conscients de la mission qui désormais nous incombe. Tu dois être conscient désormais de la mission qui t'incombe, mon frère, ma sœur. Si tu veux des portes d'escarboucle, tu dois être conscient de la mission qui désormais t'incombe. Tu dois être conscient que les choses doivent changer. Conscient qu'il faut agir différemment. Oh, oui. Oui. J'ai eu à cette conscience. Et lisons les versets 14 et suivants. Et nous verrons ce que j'ai eu à tout de suite fait après que ses partenaires d'armes aient reconnu roi et qu'il ait pris conscience de sa position de roi. Regardons ce qu'il fait. Lisons 2 Rois 9, à partir des versets 14. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galate contre Hazaël, le roi de Syrie. Je vais m'attarder sur ce verset. Je vais vous faire reconnaître. Vous vous souvenez quand j'ai lu le verset 1, roi, lorsque Dieu a dit à Élie d'aller oindre qui? Oindre Hazaël comme roi de Syrie, oindre Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète à sa place. Ici, il y a des personnalités qui sont mises dans l'échiquier là maintenant. Joram, qui était roi d'Israël, qui était fils d'Achab, descendant, Joram et Hazaël, qui était roi de Syrie. Jéhu entre dans un contexte. Jéhu était chef de guerre sous Joram et il combattait à Galate avec ses frères d'armes. Ils étaient en combat contre Hazaël. Le même Hazaël que Élie a oint. Parce que lui, il était oint pour venir dominer sur le royaume d'Achab. Dieu ne l'a pas oint pour rien. Dieu l'a oint pour utiliser sa main pour frapper Achab, pour mettre le pays d'Achab en guerre. Donc, Achab a pris ses hommes, parmi lesquels Jéhu, pour aller en guerre. Et Élisée vient donc oindre Jéhu et lui dit, « Ta bataille pour le compte de Joram est finie. Maintenant, je te oins roi d'Israël. » Il cesse la guerre avec ses compagnons d'armes. La Bible nous dit, il forma une conspiration contre Joram. C'est normal. Lui sait qu'on l'a nommé roi. Et il sait désormais que Joram est un roi illégitime aux yeux de Dieu. Il est un roi illégal. L'esprit me rappelle quelque chose. Oh my God. Je vous parlais d'une notion spéciale avec les portes d'escarboucle. Une notion qui est particulière. Parce que c'est la même chose. L'esprit me ramène à David. Et l'esprit me dit, on a oint David aussi, il avait 8 ans. Il avait conscience qu'il était un roi. Mais Saul était encore en règne. Mais ça a encore duré des années. Parce que c'était pas la même chose. Les signes n'étaient pas les mêmes. Ils étaient tous un roi, oui. Mais le processus de David devait se faire différemment du processus de Jéhu. Si on a dit au prophète « Oint et fuit », c'est parce que l'onction là qui était sur Jéhu était à action immédiate. Effet immédiat, maintenant et tout de suite. Ça n'a pas le temps d'attendre. Et quand c'est effet immédiat, c'est comme un boulet de canon. Amen. Donc, Jéhu s'est dit « Le roi est un roi illégitime. Nous sommes là, montons contre lui, démettons-le parce que moi, je dois m'asseoir sur mon siège de roi. Je dois rentrer dans les fonctions qu'on me demande de faire. Je dois accomplir ce que l'Éternel me demande d'accomplir. Il n'y a pas d'attente. C'est maintenant et tout de suite. Amen. » La Bible nous dit « Or Joram et tout Israël étaient en train de défendre Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. » Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jézreel. Il avait été blessé en guerre et il est rentré dans une ville appelée Jézreel pour se faire guérir des blessures que les Syriens lui avaient faites. Lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie, Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jézreel. » Amen. Puisqu'on l'a célébré en proclamant roi, d'autres personnes l'ont vu. Il n'y avait pas que ses frères d'armes. Ils étaient sur un terrain de guerre, d'autres armées. Il y a toujours des traîtres quelque part, il y a toujours des espions. Première décision de Joram, faisons conspiration contre Joram. Mais si vous êtes d'accord avec moi, arrangeons-nous à ce que personne de ceux qui sont ici, qui ont vu ce qui se passait, ne puisse s'échapper pour aller porter, avertir Joram que j'arrive. Ce sont des actions, mon frère et mes sœurs. Ce sont des actions à mener, des stratégies à faire. Alléluia. Nous sommes dans le temps de Jésus. Mais ça a aussi une dimension dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps de Jésus-Christ, dans le temps du fonctionnement de l'Esprit. Nous allons y arriver. Continuons notre lecture. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jézreel, car Joram y était alité et Achazias, roi de Juda, était descendu pour le visiter. Tous les rois étaient rassemblés. La sentinelle placée sur la tour de Jézreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et renvoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Quand on voit une troupe arriver, on se dit, « Est-ce qu'ils viennent en paix ou en guerre ?» Le cavalier allait au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, toi? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nichim, car il conduit d'une manière insensée. Voilà le rapport que fait la sentinelle qui est plantée là-bas à la tour et qui voit la scène. Tu arrives aux portes d'Israël, fermées avec les sentinelles. On envoie du roi, il y a une troupe qui avance. Le roi dit, allez lui demander s'il vient en paix ou s'il vient en ennemi. On envoie un premier. Jéhu lui dit, mais mon ami, que t'importe que ce soit pour la paix, si tu sais, si tu es sage, range-toi derrière moi. Et le messager s'est rangé. Vous savez pourquoi il s'est rangé? Parce qu'il a vu, il a distingué la marque de Dieu sur Jéhu. C'est le signe de reconnaissance qui parlait dans la vie de Jéhu. Il l'a reconnu comme son autorité, comme le roi, et il s'est mis derrière. Et de même pour le deuxième. Parce que Jéhu avançait désormais, marqué du sceau de Dieu. Alléluia. Et la sentinelle donne message d'abord au roi que, et à l'allure à laquelle ils viennent, ils avancent comme un insensé. En d'autres termes, je ne pense pas que ce soit pour la paix, vu l'allure qui est en train de venir là. Amen. Alors, Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Ahazias, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans les champs de Naboth de Jisréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que dure la prostitution de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Ahazias, trahison, Ahazias. C'est le roi de Juda. Mais il lui dit, Ahazias, trahison. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bictar, prends-le et jette-le dans les champs de Naboth de Jisréel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. Souviens-toi, parce que Joram est mort exactement comme Dieu l'avait prévu, en disant à Achab, toi qui marches contre mes voies, voilà ce qui va t'arriver. Il dit, prends-le, jette-le dans les champs de Naboth, parce que l'Éternel avait défini que c'est comme ça qu'il finira. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Parce que quand Jézabel s'était levée et avait poussé Achab à tuer Naboth, parce qu'il avait refusé de leur donner le champ, oh là 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 là, et qu'il avait donné le champ pour le sacrifice, Dieu avait établi son verdict sur Achab et sa descendance. Et il a dit, jette-le dans le champ de Jézabel. Mes frères et mes sœurs, ceci pour dire une chose, la parole nous dit que tout ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été dit sur la tête de Jézabel, a été fait. Si vous voulez, vous continuez la lecture de ce livre pour voir comment il a vaincu Jézabel. Amen. Ce n'est pas l'objet de notre prière aujourd'hui. Nous voulons voir, je vous parlais du signe identitaire qui était sur Jéhu. Parce que même quand Joram est arrivé, il a dit, est-ce pour la paix? Il a dit, quoi la paix? Tant que les œuvres, moi je suis venu pour combattre les œuvres de Jézabel, ta mère, et tout ce qu'il a fait subir au peuple et continue. Je viens pour ça, tant que ça durera, il n'y aura pas de paix. Joram a compris. Joram a voulu fuir, mais Jéhu a agi. Il élimine Joram. Le peuple se soumet. Vous vous souvenez du verset qu'on a lu plus haut tout à l'heure, en disant, si on ouvre les portes, si elles pensent que vous venez pour la paix et on ouvre les portes, tout le peuple sera asservi et tributaire. C'est pareil. Joram étant mort, le peuple sera tributaire et asservi. Jéhu va entrer comme roi et prendre sa place de roi et faire les œuvres de Dieu. Alléluia! Dieu veut nous marquer de son sceau. Nous, dans le temps d'aujourd'hui, Dieu veut nous marquer d'un signe visible de Christ en nous. Parce que beaucoup de fois, mes frères, mes sœurs, les enfants de Dieu n'affichent pas cette marque véritablement. Les gens du monde encore. Parce que si cette lumière se voyait vraiment, il n'y a pas moyen de ne pas fléchir les genoux. De ne pas regarder comme ça et de voir la merveilleuse vertu qui accompagne l'appartenance à ce peuple. Nous devons refléter cette lumière véritablement, éclairer les gens et être le sel du monde. Dieu veut mettre sa marque sur nous, pas les portes d'escarboucle. Il veut mettre cette marque de Christ en Christ. Il veut nous donner cette identité, que nous en soyons conscients. Il veut déposer sur ses serviteurs la marque pour occuper la place qu'il te donne. Le rôle, il a dit à Jéhu, tu seras roi. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose sur ta vie. Il t'attend quelque part pour que vous allez ensemble dans la place qu'il te donne à occuper pour œuvrer et faire venir son règne et faire des nations ses disciples. Oui, c'est un signe d'appartenance aussi. Il faut que nous appartenons à un clan, à un groupe, à un peuple bien disposé, à une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs, n'oublions pas. 2 Corinthiens 1 nous dit en son verset 21 et 22, je lis ceci. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est Paul qui parle, parce qu'il veut expliquer aux Corinthiens comment procède l'Éternel Dieu notre Père. Il dit, c'est lui qui nous a fermés en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fermés. Nous avons eu la sagesse de croire en Jésus et de confesser son nom. Mais pour être affermis en Christ, il faut que l'Éternel Dieu notre Père intervienne encore et qu'il nous oigne d'une onction particulière. Paul nous dit, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui nous oint. C'est Dieu qui nous marque de son sceau, de son signe distinctif, de son empreinte royale, de sa marque de reconnaissance. Et il met dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est quoi les arts? Pour comprendre ce que c'est que les arts, c'est-à-dire une portion déjà de l'esprit avec lequel il veut nous conduire. Il dépose chacun de nous. Dans le monde, quand nous avions les dettes et tout ça, quand nous voulons acheter quelque chose, quand on veut réserver, mais on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce que nous dit le boutiquier? Donne les arts. Tu déposes un peu d'argent, il garde pour te réserver cette chose. Pour que le jour où tu peux encore, tu viennes compléter et puis t'accaparer de cette chose. Donne les arts. Dieu dit pareil. Ce mot, les arts, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a mis dans le cœur déjà une portion de l'esprit qu'il dispose pour nous, en chacun de nous, en nous venant. Nous avons cette part de l'esprit. Personne ne peut dire qu'il a connu Christ. Dieu l'a oint et il n'a pas en lui une portion déjà de l'esprit. Même si toute la plénitude, toute la dimension de sa manifestation est à venir, est progressive. Et fonction de beaucoup de choses. Nous avons déjà les arts en nous. Mes frères, mes sœurs, je vous parle d'une dimension particulière aujourd'hui. L'Éternel nous appelle à l'intercession. L'Éternel nous explique la grâce de l'intercesseur. La grâce du combattant, la grâce de la sentinelle. Alléluia! Vous voyez qu'ici, il a établi un roi qui était particulier. La mission qu'il a confiée à Jéhu n'était pas une onction pour nourrir le peuple, conduire le peuple, etc. Non. Tu vas attaquer Jézabel, détruire Jézabel, c'est ça. Jéhu était un roi de bataille. Et sa bataille n'était pas dirigée, sa bataille était dirigée contre l'ennemi, aux portes. Va me terminer avec cette histoire de Jézabel, j'en peux plus. Laisse le peuple là où il est. Et va terminer avec Jézabel. Le règne de Achab, j'en peux même plus entendre parler. Nous parlons des batailles. J'ai comparé tout à l'heure l'onction de Jéhu à l'onction de David. Non, c'est pas pareil, mon frère, ma sœur. C'est une onction spéciale. L'onction de Jéhu, l'onction là, c'est une onction spéciale. C'est l'onction de l'intercession. C'est l'onction du guerrier. C'est l'onction de l'intercession, de la sentinelle, de celui qui monte à la brèche, de celui qui veille aux portes, de celui qui attaque. Oh. Et l'esprit qui se déploie ici, c'est l'esprit de grâce et de supplication. Nous voyons que Jéhu va en guerre. Oui, on a des batailles, vous allez me dire. L'Éternel nous a dit, nous sommes dans notre temps, mais sa parole est une, sa parole est indéfectible. Ce qu'il nous enseigne dans l'Ancien Testament, il le met en pratique, même dans le Nouveau Préparant, parce que c'est accompli, mes frères et mes sœurs. C'est les dimensions qui sont différentes. Oh là là. L'esprit de grâce et de supplication se déploie dans son orangé. Souvenez-vous, je vous parle encore de la couleur orange. C'est la grâce qui se déploie dans l'arc-en-ciel, dans la couleur orange, dans l'esprit de grâce et de supplication, qui est l'esprit de l'intercesseur. Alléluia! Je vous ai dit que l'escarboucle, c'était une flamme qui ressemble à la braise, un charbon ardent et vif. Quand on regarde la braise, mon frère, rutilante, le cœur est jaune et les bordures sont rouges flammes. Alléluia! C'est ce rouge orangé là, qui se décline, qui monte pour être rouge de feu. C'est cet esprit là qui se déploie ici. C'est un esprit qui nous met au rang supérieur, qui nous élève en esprit. L'Éternel a choisi Jéhu, l'a élevé du milieu de ses frères pour qu'il conduise cette bataille. Pas pour lui-même. Jéhu n'avait rien demandé, il était chef de guerre. Il aimait faire la guerre. Mais Dieu l'a promotionné pour qu'il conduise le peuple dans une bataille de conquête pour Dieu. Alléluia. Pour Israël. C'est ce que Dieu fait avec nous en intercession. Nous n'allons pas intercéder pour nous-mêmes. Nous avons dépassé ce stade. Parce que Dieu met une marque particulière sur l'intercesseur. sur la sentinelle. Il l'élève. Et il l'élève en esprit. N'oubliez pas qu'il l'a rempli d'esprit, parce qu'il l'a oint. C'est cet esprit-là qui nous amène à nous fortifier dans le Seigneur et être chargés, rechargés de sa force toute puissante. C'est cet esprit qui nous revêt de cette puissance de résister à l'ennemi, puissance d'affronter l'ennemi, puissance de conquérir. Alléluia. C'est l'esprit qui nous équipe de son armure et nous fait tenir ferme devant l'ennemi dans la bataille. C'est cet esprit-là qui nous fait discerner les stratégies. Parce que l'Esprit de Dieu, dans la grâce et dans la supplication, nous donne la dimension de l'action. Nous avons vu en étudiant comment j'ai eu à procéder. Alléluia. Qui nous donne, à force d'affronter, de nous tenir fermes aux portes, pour nos églises, pour nos assemblées, pour le peuple de Dieu, pour nos maisons, pour les âmes, et de ne pas hésiter, comme j'ai eu, de foncer vers la porte de l'ennemi et de l'amener à ouvrir cette porte. Alléluia. Pour le rendre tributaire et asservi et l'amener dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Parce qu'il vaut mieux être esclave de Jésus qu'esclave de Satan ou de Jézabel. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est une grâce d'être esclave de Jésus. C'est une grâce d'être asservi à Jésus. Amen. Bien sûr, du temps de Jésus, il s'agissait des batailles physiques. De chevaux, d'épées, etc. De lances, de feu. C'est le temps de Jésus. Mais au temps d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, il y a toujours bataille. Nous sommes en bataille, mes frères et mes sœurs. Nous ne sommes pas dans la confrontation physique, mais nous sommes dans des confrontations d'esprit. Nous ne sommes pas dans des confrontations de chair ni de sang, mais de prière, de supplication, de jeûne, d'action de grâce, de prosternation. Oh, devant la face de l'Éternel, d'action prophétique, oui. Ce n'est pas une confrontation de chevaux, d'épées, mais, comme je disais, une confrontation de jeûne, de veille, de proclamation, d'autorité dans la parole de vérité. Jésus prend son épée de métal, mais nous prenons l'épée de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est esprit et vie, qui est une véritable arme. Mais c'est pareil, nous allons en guerre. Ils ont revêtu Jésus de son armure de guerrier métallique. Mais nous devons nous revêtir de notre armure divine. Oui, nous avons aussi des ceintures, des boucliers, des casques, des chaussures, l'épée nous avons. Nous avons toute cette armure-là dans la justice de Dieu. Dans sa parole, dans la foi que nous avons, dans la vérité de notre engagement avec Dieu. Nous avons cela. Dans le zèle de l'évangile, nous avons ces armes. Dans le salut que nous attendons. Alléluia. Dans la justice que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais nous allons en guerre, nous allons en bataille, mes frères et sœurs. Alléluia. Éphésiens 6, 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, et oui, pour cela nous devons être apprêtés. Notre armure doit être adéquate pour ce genre de combat. Nous devons être saints de vérité, c'est-à-dire appliquer la vérité de la parole de Dieu dans nos propres vies. Nous devons le faire. Nous devons être revêtus de notre justice. Parce que justifiés par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous devons rechercher et connaître les principes et les règles de la justice et du royaume de Dieu. Et nous devons en faire les priorités de notre vie. Oui, mes frères et mes sœurs. Nous devons être zélés de l'évangile de paix. C'est-à-dire propager la bonne nouvelle de la résurrection de Christ et de la présence du royaume de Dieu qui doit être équipés. Nous devons le faire. Nous devons être équipés de foi. Mon frère, ma sœur, que ton cœur ne se trouble point, nous dit la parole de Dieu. Crois en Jésus et crois en Dieu. Il dit, crois en Jésus et crois en moi. Nous devons le faire. Nous devons croire en Jésus et croire en Dieu, envers et contre toutes sortes de situations qui se présentent devant nous. envers et contre toute forme d'assaut, les assauts mensongers de l'ennemi. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Jésus et crois en Dieu. Peu importe la situation qui est devant toi, lève-toi. Il t'a oint. Alléluia. Il t'a commissionné. Alléluia. Il t'a établi quelque part. Fais ce que tu as à faire avec l'Éternel. Nous devons être coiffés du salut qu'il nous donne. Mon frère, ma sœur, garde inébranlable l'espérance de la gloire en Jésus-Christ que tu as en toi. Garde cela inébranlable. Christ en toi, l'espérance de la gloire de Dieu. Garde cela. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et nous devons être armés de la parole de Dieu. Armés de la parole de vérité. Armés de la parole de vie. Oui, mon frère, ma sœur, je t'exhorte à prier le Saint-Esprit, à l'inviter pour qu'il te donne la révélation de la parole de Dieu. Je t'exhorte à donner la digne du temps de Dieu. Passe du temps dans la parole, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas de livre qui soit meilleur que la Bible. En fonction de ce que tu es en train de faire, mon frère, ma sœur, si tu es à l'école, fais tes devoirs. Lis les livres de classe pour le temps que tu consacres pour l'école. Mais prends même sur ton temps de sommeil. Ajoute ta connaissance avec la parole de Dieu. Si tu es au travail, tu as beaucoup de travaux, des dossiers, tout ça. Oui, fais-le pour le temps que tu consacres au travail. Mais prends du temps pour la connaissance de la parole de Dieu, mon frère et ma sœur. Parce que c'est ton arme la plus puissante. C'est ton arme d'attaque. Triomphe des œuvres du malin par cette parole qui est esprit et vie. Désire de la comprendre. Désire qu'elle se fasse chère en toi. Afin que partout où tu te meurs, elle fasse partie de toi. C'est comme ça que fait notre Seigneur Jésus. La parole faite chère. Alléluia. C'est indispensable pour que nous soyons de vrais chrétiens, mon frère, ma sœur. Nous devons aussi avoir des stratégies affûtées. Ephésiens 6, de son verset 18-20, donne ses stratégies après avoir communiqué sur l'armure. Il donne ses stratégies, Paul donne ses stratégies. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est fait agir. Fais mouvoir l'esprit de grâce et de supplication en toi. C'est de cet esprit qu'on parle maintenant. Parce que c'est l'équipement, c'est dans cet esprit que l'intercesseur se meut. Prière, grâce et de supplication. Veille à cela avec une entière persévérance. Et priez pour les saints. Oui, les saints, c'est tous ceux qui ont gagné la catégorie d'être enfants de Dieu, d'appeler fils de Dieu. Les saints, c'est toi qui donnes ton cœur véritablement à Jésus. C'est toi qui te blottis véritablement en Jésus. C'est ce peuple que Jésus attend dans le royaume. Ce sont les saints, ce n'est pas comme certains disent pour les catholiques, c'est seulement les morts. Non, il y en a qui sont déjà morts et qui sont là dans leur sainteté. Ceux qui viennent, ceux comme toi et moi, sont encore ici ou sont encore dans le royaume des ténèbres et que tu dois ramener dans le royaume de lumière. Et il nous dit, ce sont des stratégies affûtées. Faisons-le, ma femme et soeur. Oh Dieu. Les portes d'escarboucle à nos pensées imprenables par l'ennemi. On nous enseigne tout le temps, on dit que l'ennemi agit en agissant dans nos pensées, qu'il atteint nos pensées et nous-mêmes nous commandons les choses contre nous-mêmes. La porte d'escarboucle rend inébranlables les portes de tes pensées. Il rend tes forteresses inviolables. Il rend ta vie incontrôlable par l'ennemi. Oh Seigneur, merci pour tes portes d'escarboucle. Merci pour les portes d'escarboucle que tu vas façonner. Merci pour cette transformation des portes de ma vie, des portes de ma demeure, de mon ministère, de mes projets, les portes des lieux de bataille, des lieux de rencontre que tu as, Père éternel. Des portes des lieux où tu dois planter ta bannière. Des portes du territoire, au Père éternel, des nations, au Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton peuple, pour tes serviteurs, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour tes portes d'escarboucle. Merci parce que tu nous dis que ceux qui s'approcheront, Seigneur, s'inclineront. Oui, Père, là où nous irons, au Père éternel. Parce que tu nous as fait des portes d'escarboucle, au Père. Tu as mis ton signe, ta marque sur nous, Seigneur. Quelle que soit la résistance qui s'oppose, ils s'inclineront au Père éternel. Alléluia. Oh, ils s'inclineront devant celui qui est propriétaire, Jésus-Christ, le roi des rois. le Rédempteur en toute chose, le Maître suprême, Jésus, notre Seigneur. Oui, c'est sa marque qui est inscrite. Ils reconnaîtront, Père éternel, sa marque, aux portes de ton royaume, car c'est de lui la porte des brebis. Alléluia. Alléluia. Oui, Père éternel, fais de nous des serviteurs, ô Seigneur, des serviteurs marqués de ta marque. Des serviteurs oints au Père éternel. Des serviteurs reflétant ta brillance et ta lumière. Ô Dieu de gloire, Papa, conduis-nous, Seigneur. Inscris en nous, ô Père éternel, ce désir d'intercession, Papa. Accorde-nous ainsi la grâce de l'intercesseur pour nous. La grâce du serviteur, ô Père éternel. Oui, ô Dieu, merci. Merci parce qu'à l'image de notre Seigneur Jésus, lui qui a payé le prix fort, il a souffert d'ardentes souffrances pour obéir, Seigneur, à toi, par amour pour nous. La parole dit que tu nous as tant aimés, et Christ aussi, notre Seigneur, notre roi, nous a tant aimés qu'il a tout subi pour que nous ayons sa vie de gloire. Merci, Père éternel, nous aussi, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Ô Père, oins-nous de cette onction particulière qui nous fait lever au Seigneur Dieu Père Tout-Puissant et aller contre toute attaque ou opposition de l'ennemi. Aller, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, par amour des âmes, ô Père, à l'extrémité des nations, du monde, faire des nations télévisées. Et amener, Seigneur, dans ton royaume, des âmes, Seigneur. Ô Dieu de gloire, par nous-mêmes, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Mais par ton esprit, ô Seigneur, agis en nous, accomplis, fais cette portée d'esclavage, ô Père éternel, afin que nous soyons rendus capables, comme j'ai eu, Seigneur, de faire ces actions, d'agir, d'entrer en bataille, et d'être conquérant, d'être victorieux, d'avoir du succès. Alléluia, ô Père éternel, de peupler ton royaume. Alléluia, ô Dieu, doté des portées d'escarboucle, mes frères et mes sœurs, nous pouvons faire les mêmes prières que Paul a demandé aux Éphésiens de faire pour le soutenir dans ce par quoi il passait. Nous devons soutenir les uns les autres. Nous devons soutenir nos conducteurs. Nous devons soutenir les oints de l'Éternel qui prennent la tête des batailles que nous menons. Nous devons soutenir le corps du Christ. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Comme Paul dans Éphésiens 6, à son verset 19 et 20, faisons cette prière. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Oh oui, mes frères, mes sœurs, priez pour moi. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les femmes de Dieu. Prions pour ceux qui se lèvent. Prions pour les intercesseurs. Prions pour les sentinelles. Oh Père, ils ont besoin que nous prions pour eux, afin qu'ils se lèvent, qu'ils fassent leur travail, dans le nom puissant de Jésus. Prions pour le corps du Christ, afin que tous, chacun dans la dimension que Christ a donnée, puisse accomplir cette œuvre de grâce et de supplication pour les âmes au nom puissant de Jésus. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, voilà la dimension des portes d'escarboucle. Voilà ce que Père veut faire avec nous. Voilà ce que Père dit lorsqu'il dit qu'il fera de nos portes des portes d'escarboucle. N'est-ce pas merveilleux? Oh oui, mes frères et mes sœurs. Louons l'Éternel. Il est digne de louange. Glorifions-le encore et encore, nuit et jour. Oui, car toute la gloire lui revient. Adorons-le d'un cœur sincère, en esprit et en vérité. Alléluia. Disons-lui oui, me voici. Fais de mes portes des portes d'escarboucle, ô Père. Oh, je suis si contente que mes portes soient transformées en portes d'escarboucle. Ô éternel Dieu de gloire, nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Vive le Saint-Esprit et ouvrez vos cœurs et plantez ce message dans vos cœurs. Que vous soyez conscients de votre identité et conscients de ce que Père veut faire dans vos vies en cette saison, dans votre marche avec lui. Oui, mes frères, faites des actions de grâce. Alléluia. Soyez bénis. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous aime. Shalom.